Week-end première.
Et l'été, comme vous le savez, on se plaît à vous rediffuser le meilleur de la crème des interviews de la saison. Et aujourd'hui, retour sur l'interview de Sébastien Diguez qui nous faisait le plaisir d'être notre invité en janvier dernier. Il est chercheur en neurosciences à l'université de Fribourg en Suisse, spécialiste de la psychologie du pouvoir, et il s'est penché sur l'intérieur de la tête d'un certain Donald Trump.
On s'est tous posé la question ces derniers jours. Que se passe-t-il dans la tête de Donald Trump? Est-ce qu'il croit vraiment que les résultats de l'élection présidentielle ont été truqués? Comment le président d'une des plus grandes démocraties du monde peut-il appeler à marcher sur le Capitole après avoir perdu une élection menée démocratiquement? Perte du sens des réalités, intolérance à la contradiction, action à l'emporte-pièce, obsession de sa propre image, abus de pouvoir seraient quelques-uns des symptômes d'une maladie mentale liée à l'exercice du pouvoir, le syndrome d'hubris, qu'on trouvait déjà chez Platon, mais qui a été développé plus récemment par le médecin et ancien secrétaire d'État britannique David Owen. On en parle ce matin avec Sébastien Diguez, chercheur en neurosciences à l'université de Fribourg, en Suisse, et spécialiste de la psychologie du pouvoir. Bonjour Sébastien Diguez.
Bonjour.
Alors d'abord, dites-nous, le syndrome d'hubris, qu'est-ce que c'est ?
Bon, c'est une entité clinique qui a été proposée par cet ancien politicien et diplomate anglais, qui était aussi médecin. Et il faut le dire tout de suite, qu'il n'y ait pas un diagnostic établi et accepté de la nomenclature officielle de la psychiatrie et de la médecine. Donc c'était régulièrement dans la littérature scientifique, on a des propositions comme ça, et si on développait un nouveau diagnostic, une nouvelle maladie, une nouvelle entité. Donc à ce titre-là, elle reste très hypothétique et spéculative, mais elle est intéressante dans la mesure où elle permet de s'appliquer à des cas concret et de réfléchir à certaines problématiques.
Et vous diriez que c'est quelque chose qui s'applique bien à Donald Trump ?
Voilà, le syndrome d'hubris a été proposé dans le contexte du début des années 2000 et à vrai dire, il s'agissait plutôt d'une charge adressée spécifiquement à deux politiciens, Tony Blair et George W. Bush, donc dans un contexte qui était très différent de celui qu'on connaît actuellement. Et le syndrome d'hubris désigne, si on veut, un effet spécifique du pouvoir, c'est-à-dire que une fois qu'on obtient le pouvoir, on commence éventuellement à développer certains traits qu'on n'avait pas auparavant. Et donc, c'est cette idée que le pouvoir monte à la tête et le pouvoir en tant que tel corrompt. Chez Donald Trump, on a affaire à quelqu'un qui présentait déjà, en fait, la plupart des critères du syndrome d'hubris avant d'accéder au pouvoir. Donc, moi, on m'avait posé la question il y a 4 ans, en 2016, sur est-ce que Donald Trump est victime du syndrome d'hubris. Et en réalité, je m'étais complètement trompé. J'avais postulé que puisqu'il présentait déjà tout un tas de ces problèmes liés au pouvoir, peut-être que l'accession réelle au pouvoir allait en quelque sorte modérer et apaiser, calmer un peu ces traits. Donc le pouvoir peut rendre fou, mais d'un autre côté, il donne aussi des responsabilités, il donne une certaine forme de solennité, et peut-être que chez certaines personnes, ça pourrait avoir un effet calmant. Une fois qu'on a obtenu ce qu'on veut, des fois, un effet un peu anxiolytique, on est satisfait et on se comporte de manière différente et mieux. Bah, évidemment, on a vite constaté que chez Donald Trump, ça n'avait pas du tout cet effet-là, donc je m'étais complètement trompé.
Cela dit, Donald Trump, il avait déjà du pouvoir avant, en fait, qui était différent, mais qui était un pouvoir aussi d'influence, à la télévision également. Parce que dans ce qu'on décrit aussi, il y a le fait que... on est entouré que de gens qui nous disent « oui, vous avez raison ». C'est ça aussi ce qui est lié à ce syndrome.
Oui, exactement. Donc, le pouvoir en tant que tel, quand on y réfléchit, c'est une entité plutôt abstraite. On donne juste à quelqu'un la capacité ou disons la responsabilité d'avoir à prendre des décisions. Et donc on installe une forme d'asymétrie entre une personne et les autres. Donc le pouvoir a des effets problématiques, pas seulement politiques. Tout le monde peut constater les effets du pouvoir dans la famille, au travail, dans la la culture, dans un club sportif. Il y a des gens qui manifestement se servent assez mal du pouvoir et à qui on ne devrait pas donner du pouvoir, en fait. C'est ça tout le problème, c'est qu'on n'a pas de processus de légitimation du pouvoir qui soit parfaitement rationnel aujourd'hui. Hein. Dans une démocratie, finalement, on donne du pouvoir un peu à l'aveugle.
Ça veut dire que selon vous, avant de donner le pouvoir à quelqu'un, il faudrait même faire une espèce d'analyse psychologique ou psychiatrique pour vérifier qu'il est apte aussi d'un point de vue mental à exercer le pouvoir ?
Ben c'est toute la question, c'est très controversé depuis très longtemps, depuis l'Antiquité. On se demande qu'est-ce que c'est que le pouvoir, qui devrait l'exercer et comment exactement exercer le pouvoir. Donc c'est pas une discipline unique, en l'occurrence la psychiatrie, qui pourrait trancher cette question, et ce serait probablement pas souhaitable. Mais d'un autre côté, c'est sûr que dans toute l'histoire, on a pu constater les effets dévastateur du pouvoir qui est donné à la mauvaise personne. Et donc la question, c'est, enfin, disons que dans le milieu de la clinique, c'est une question qui est très controversée. Est-ce que, en particulier sur la question du diagnostic, est-ce qu'on peut diagnostiquer des gens qu'on n'a pas examinés dans son cabinet ? D'un autre côté, ces gens-là sont des figures publiques, en particulier Donald Trump fournit beaucoup plus d'informations qui sont disponibles publiquement, hein, c'est quelqu'un qui s'exprime par Twitter, on l'entend à la télévision, on a beaucoup de témoignages sur lui, et donc quelqu'un comme Donald Trump, on a beaucoup plus d'informations que pour n'importe quel patient ordinaire qui serait examiné dans un cabinet.
Et alors lui, Sébastien Dieguez, qu'est-ce que vous lui diagnostiqueriez à Donald Trump ?
Alors, je pense qu'il faut être modeste sur ce point-là, quoi, parce que c'est vrai qu'il y a des livres entiers qui sont parus sur la psychologie de Donald Trump. Il y a un grand débat sur la question depuis qu'il a été élu, mais même avant, on trouvait des éléments de réflexion là-dessus. La première chose qui vient à l'esprit, c'est une forme de narcissisme extrême, narcissisme radical, peut-être accompagné par certains traits un peu antisociaux, qui parlent d'une certaine manque d'empathie, le fait d'être imbu de sa personne, le fait de ne pas écouter, le fait de prendre des décisions impulsives, le fait d'avoir un excès de confiance en soi, tout ça est clair et net chez Donald Trump. Il n'y a pas besoin de l'examiner longuement dans son cabinet pour le découvrir. Simplement, beaucoup de gens sont narcissiques, beaucoup de gens sont impulsifs, beaucoup de gens sont prétentieux. Est-ce qu'avec Donald Trump, on peut vraiment rester à une description aussi superficielle ? Il y a beaucoup de réflexions qui ont été faites sur la question, beaucoup d'articles qui ont été écrits, mais à vrai dire, le mystère demeure, en fait. Et je pense que ça va rester un sujet d'étude pendant longtemps. Est-ce que vous demandiez au début, est-ce qu'il croit vraiment, réellement, en son fort intérieur, qu'il a été élu haut la main par le peuple américain, qu'il a gagné l'élection, puis qu'on cherche à lui la voler ? C'est toute la question. Est-ce que c'est quelqu'un de cynique, de stratégique, et qui ment délibérément sans arrêt, ou est-ce qu'il est vraiment déconnecté de la réalité ? Est-ce qu'il est vraiment dans son monde ? Et à ce moment-là, il faudrait se demander comment on a pu en arriver là, quoi. Comment on a pu mettre au pouvoir quelqu'un qui est tellement loin de la réalité, alors qu'en fait, un président des États-Unis serait censé gérer des affaires réelles dans le monde réel, pas seulement dans sa tête.
Mais justement, la manière dont il est arrivé au pouvoir, Sébastien Dieguez, vous avez aussi écrit un article très intéressant qui s'appelle « Les Ubus au pouvoir », donc comme le père Ubu dans Ubu Roi d'Alfred Jarry, qui explique notamment pourquoi on peut malgré tout faire confiance en notre fort intérieur en quelqu'un qui ment et qui ment publiquement et dont on sait très bien qu'il ment. Expliquez-nous.
Oui, alors dans une situation de crise et de défiance générale à l'égard des autorités et du pouvoir, où il y a disons une masse critique de la population qui trouve que le pouvoir n'est pas légitime, qu'il est trop déconnecté de la réalité, que les élites ne se préoccupent pas suffisamment du peuple, les élites sont corrompues et loin des réalités, et le peuple est vertueux et au contact du terrain. Donc si vous avez ce terrain-là, vous pouvez favoriser une personne qui ment délibérément. Et en fait, donc, tout le monde sait qu'elle ment. Pourquoi ? Parce que le mensonge est une forme de négation des normes rationnelles de débat qui sont généralement appliquées parmi les élites. Donc, si vous
donc
mentez,
ça veut dire que, par exemple, on va trouver que la personne elle est plus authentique, finalement, parce qu'elle ment ?
Oui, c'est ça le paradoxe, en fait. Quoi. C'est le fait de mentir, que tout le monde sache que la personne ment, signale qu'elle ne joue pas le jeu, qu'elle se distingue délibérément du jeu habituel de la politique, qui est précisément ce qu'une forte partie de la population rejette. Donc le fait que cette personne se distingue des normes ordinaires de la délibération la prouve, en fait, qu'elle est authentiquement du côté du peuple. Donc le mensonge, dans certaines circonstances, rend les personnes plus sincères et plus authentiques.